Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Être ou ne pas être? Telle est la question. Y a-t-il pour l'âme plus de noblesse à endurer les coups et les revers d'une injurieuse fortune ou à s'armer contre elle pour mettre frein à une marée de douleurs? Mourir, dormir, dormir, rêver peut-être. En version originale par Kenneth Branagh, ça donne ça.
To be or not to be. That is the question. Whether 'tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles and by opposing end them, to die, to sleep, no more, and by a sleep to say we end the heartache and the thousand natural shocks that flesh is heir to. 'Tis a consummation devoutly to be wished. To die. To sleep. To sleep. Perchance to dream. Aye, there's the rub.
Bonjour Adi Risk.
Bonjour.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Le livre qui va nous accompagner cette semaine est écrit par le philosophe Jean-Paul Sartre, qui naît en 1905, meurt en 1980. Le livre en question est écrit en 1943. Paré en 1943, donc pendant la Seconde Guerre mondiale, et s'appelle « L'être et le néant ». Nous avons jusqu'à jeudi pour découvrir, lire et pourquoi pas comprendre ce texte qui est incontournable dans l'histoire de la philosophie. On va essayer de comprendre pourquoi. Grâce à vous notamment, vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle « Comprendre Sartre », cher Armand Collin, et vous êtes professeur de philosophie en classe préparatoire au lycée Henri IV. Est-ce que vous étudiez ce texte avec vos élèves?
Bien sûr, je l'évoque, j'en étudie des passages et... Quand bien même je n'en parle pas explicitement, c'est une œuvre qui fait partie de ma manière d'aborder la philosophie et d'engager des jeunes gens et à en faire.
Alors que dites-vous à des élèves ou des personnes que vous pouvez rencontrer qui n'ont jamais lu ce texte et à qui vous voulez donner envie de le lire? L'être et le néant, c'est l'opposition à laquelle tout se ramène en philosophie. Est-ce que c'est une variante du « to be or not to be » de Shakespeare, par exemple, d'Hamlet, qui a ouvert cette émission?
Un peu. Je vais rebondir avec ce qu'on a entendu dans cet extrait. La question, eh bien, la nouveauté de Sartre, c'est qu'il ne s'agit pas de répondre à la question ou à la question la plus essentielle, par exemple, « Pourquoi y a-t-il quelque chose ?» plutôt que rien, car il dit lui-même que cette question n'a de sens que par l'apparition de la réalité humaine. Et l'apparition de la réalité humaine en rapport avec l'être, les réalités humaines qui se posent d'une certaine façon, prenant recul par rapport à l'être, en créant le rapport à l'être. Ce qui signifie que la question, c'est l'homme. Nous sommes une métaphysique en action. C'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire que l'existence ait un sens, que l'existence ait une raison d'être pour mériter d'être vécue. L'existence prend toute sa signification du fait que nous faisons apparaître le monde, nous réalisons par nos actions toute la richesse et toute la phénoménalisation du réel. Donc je dirais que la leçon fondamentale de ce texte est qu'il y a une véritable joie, un véritable orgueil, c'est le mot qu'utilise Sartre dans Les Carnets de la Drôle de Comédie, un orgueil d'exister. Parce que moi qui n'ai pas de raison d'être, moi qui ne suis rien d'autre que le rapport au monde, eh bien, je consume mon absence de raison d'être dans le fait de révéler le monde. Et on pourrait terminer par cette remarque de Sartre où il commente Saint-Exupéry. Mmh. Il commente les pages de Saint-Exupéry où ce dernier décrit la fameuse cordillère des Andes que le pilote, à quelques centaines de mètres près, dans son avion à hélice, franchit, mais vraiment dans une espèce d'effort surhumain, parce que parfois, il faut se détourner, on n'y arrive pas. Et Sartre dit, Saint-Ex dit, que lorsque le pilote a enfin franchi, il voit la montagne comme une bête endormie, avec des lucioles. Ces lucioles, ce sont des petites maisons, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le réel existe. Le monde est, mais toute la profondeur, toute la richesse du monde vient de ce dévoilement par la réalité humaine, par son action. par une liberté qui est pour fonder le monde et non pour se fonder soi-même. Il faut donc accepter de manquer de sens soi-même pour donner sens à la réalité la révélant.
Ça, c'est le fond du livre. Hein. Voilà. L'existence humaine est contingente, nous dit Sartre, c'est-à-dire qu'elle ne correspond à aucune nécessité, aucune raison d'être.
Voilà.
Nous ne sommes pas là pour quelque chose. Notre vie n'a pas de cause première ni de fin ultime. Et pourtant, nous sommes en vie, nous devons bien essayer d'en faire quelque chose.
Voilà.
Et ce quelque chose passe non pas par la conscience de soi, mais peut-être par celle du monde. C'est en tout cas le dessin que nous allons suivre. On va vraiment commencer au tout début, Adiris. On part vraiment du principe que ce livre, que je n'ai pas lu ce livre. Partons de ce principe, L'être et le néant. Le titre est un peu troublant, alors je lis quand même le sous-titre pour donner une idée aux auditeurs. Essai d'ontologie phénoménologique. Là, on n'a pas très envie d'ouvrir le livre si on ne comprend aucun de ces deux mots, ce qui sont quand même deux termes techniques. On va commencer de manière, vous êtes prof de philosophie en classe prépa, on va commencer de manière conceptuelle et méthodique en définissant ce qu'est le néant. Et pour nous aider, vous allez nous donner la définition du néant par Sartre, mais pour nous aider cette fois-ci, non plus Shakespeare, mais l'histoire sans fin. Écoutez.
Si tu avances encore, je te découpe en morceaux.
Je suis un guerrier.
Courageux guerrier. Alors affronte le néant. Fantasia n'a pas de limite.
Ce n'est pas vrai! Tu mens!
Enfant stupide, ne sais-tu pas ce qu'est Fantasia? C'est le monde de la fantaisie de l'homme. C'est pour cette raison qu'il n'existe aucune limite.
Mais pourquoi Fantasia est en train de mourir?
Parce que les gens ont commencé à perdre l'espoir et à oublier leur rêve. Alors le néant envahit tout.
Qu'est-ce que c'est que le néant?
Ce qui reste, le vide. Le désespoir détruit ce monde.
Bon, c'est du Sartre dans le texte, hein, du risque à l'histoire sans fin. Donc, pour rappel, hein, c'est ce petit garçon, Bastien, de 10 ans, qui est un passionné de romans d'aventure. Et un jour, il découvre un roman d'histoire absolument merveilleuse dans lequel il veut s'aventurer. Et ce monde, Fantasia, semble avoir une limite. Il se rend bien compte qu'au bout d'un moment, ce monde-là commence à disparaître. La réponse qui lui est faite, c'est que ben oui, parce que les êtres humains n'y croient plus, n'ont plus assez d'imagination pour faire vivre Fantasia, et donc ce qui advient, c'est le néant, c'est-à-dire le vide, le désespoir. C'est cohérent avec ce que dit Sartre dans L'être et le néant ?
C'est un aspect, mais on va voir l'autre aspect. Quand on parle du vide, il ne faut pas imaginer le vide simplement comme une aporie. Comme une aporie, ça c'est parce qu'à ce moment-là, on pourra toujours dire que le vide n'a de sens que par rapport au plein. Vous voyez ? Et qu'est-ce que c'est que le vide, sinon un plein qu'on a mis entre parenthèses ou en suspension ? Donc, c'est vrai que d'un certain point de vue, il y a une aporie de la notion de néant. Le néant n'est pas et l'être est. Et Sartre assume parfaitement cette aporie. Mais il donne au néant, au vide, un sens beaucoup plus, j'oserais dire, dynamique. C'est-à-dire que on fait le vide. C'est-à-dire que pour que quelque chose apparaisse, on ne peut pas être confondu à ce qui est. Il faut une perspective. Il faut un trou. Autrement dit, la réalité humaine, la conscience humaine, se fait vide de l'être. Elle se fait dans un premier temps vide de l'être. Elle se néantise, comme il dit. Mais elle se néantise pour se rapporter à cet être dont elle s'expulse, en quelque sorte. Autrement dit, il faut faire le vide de l'être pour se rapporter à cet être. Autrement dit, le vide permet le rapport à. Une conscience n'est rien d'autre qu'un rapport à l'être qu'elle n'est pas.
Mais pourquoi dit-il néant et pas simplement vide ou rien, justement? Dans l'extrait du film, on définit ici le néant comme étant le vide, le désespoir, comme quelque chose de négatif.
Oui.
Chez Sartre, est-ce que c'est simplement ce qui s'oppose à l'être, Dans ce cas-là, il aurait pu dire le non-être, justement, to be or not to be. Il dit le néant, qui a une connotation, effectivement, de beaucoup plus dramatique, en fait, que le vide ou le rien.
Oui, oui, mais il utilise le néant pour dire que le néant suppose un être qui se néantise, voilà, je dis ça entre guillemets, qui se néantise face à l'être, c'est-à-dire qui expulse de soi l'être, qui se sépare de l'être pour pouvoir se rapporter à l'être. C'est-à-dire que le néant chez Sartre, c'est une certaine manière de parler de l'être. On ne peut pas parler de l'être sans évoquer le néant. Le néant chez Sartre, c'est une autre expression qui se veut plus fondamentale pour évoquer la transcendance. La transcendance de la conscience, c'est-à-dire l'ouverture à ce qui n'est pas soi. Pour s'ouvrir à ce qui n'est pas soi, il faut se faire vide de tout, sauf de l'être. Ce qui fait que le néant permet l'ouverture d'un rapport à. Sans néant, il n'y a pas de rapport à l'être. Il faut ne pas être l'être pour pouvoir se rapporter à l'être.
Et pourquoi est-ce que le problème se pose? Pourquoi faut-il se rapporter à l'être? Concrètement. C'est-à-dire pourquoi est-ce que Sartre se pose cette question-là? Comment faut-il se rapporter à l'être? Et en arrive-t-il à la conclusion qu'il faut passer par le néant pour atteindre l'être?
Eh bien, précisément, vous évoquez l'aspect technique du sous-titre, ontologie phénoménologique, mais c'est parce que c'est de là que Sartre part. Il part de Husserl, il part de Descartes, c'est-à-dire de la conscience. De la conscience qui permet l'apparition de l'être, parce que l'être se manifeste à une conscience qui soit se le représente, par exemple chez Descartes, soit le vise. Tandis l'intentionnalité de la conscience qui est toujours conscience d'autre chose que d'elle-même. Et pour poser cette question de l'intentionnalité de manière radicale, Sartre isole la conscience qui est le rien qui permet le rapport à. Autrement dit, c'est par la conscience qu'on se rapporte à, c'est-à-dire qu'il y a phénoménalisation. Pour dire les choses autrement, Husserl explique, toute conscience est conscience de. Mais simplement, Sartre ne veut pas que l'être ne soit que ce dont j'ai conscience. Il faut que l'être ait une altérité irréductible par rapport à moi. Et pour ce faire, il faut que la conscience ne soit rien que d'autre que vide de l'être, qu'elle se fasse vide de l'être dont elle va permettre l'apparition.
Alors je rassure les auditeurs, si cette discussion vous paraît très technique, sachez que dans le livre, il y a des exemples extrêmement clairs, voire littéraires, et on va les entendre ensemble, évidemment, à 10 risques, qui permettent d'ancrer dans l'expérience et dans le vécu l'analyse que Sartre propose par ailleurs. Il y a deux façons de lire ce livre, de l'inscrire dans l'histoire de la philosophie, comme héritier de Husserl et de Heidegger, et d'en faire l'écho, de voir en quel sens ce livre peut être l'écho de notre expérience vraiment la plus quotidienne. Il prend l'exemple du garçon de café, de la femme de mauvaise foi. On va y venir dans un instant. D'abord, j'ai dit que ce livre était publié en 1943, on est en pleine Seconde Guerre mondiale. Sartre écrit ce texte pendant la Seconde Guerre mondiale.
Oui, même s'il a commencé vraiment à le penser et à le rédiger en 39-40. Oui, tout à fait. C'est un texte qui dont même la nouveauté, y compris sur le rapport au monde, la conscience qui, en même temps qu'elle s'inclut dans le monde, s'en sépare, c'est par notre absence au monde et au réel que nous sommes présents à ce même malentendu. Nous ne pouvons jamais adhérer, nous ne pouvons jamais coller. Coller ou vouloir adhérer, c'est cela précisément une forme de mauvaise foi. Vous voyez ? Donc, cette découverte du mélange d'engagement de la conscience dans le monde et en même temps son irréductible retrait qui fait qu'elle ne peut jamais être prise adhérente un peu comme une chose, c'est quelque chose qui apparaît avec le contexte de la Seconde Guerre mondiale et avec aussi le souci qu'a Sartre de s'investir effectivement dans le réel, d'être en situation, en prise sur le réel et pas simplement comme il l'avait fait dans l'imagination ou dans ses premiers textes sur l'intentionnalité, poser l'intentionnalité comme simple ouverture à l'être. Dans l'être et le néant, il y a ouverture à l'être et en même temps implication dans le monde réel que l'on dépasse sans cesse vers des possibilités, vers des idéalités qu'on imagine et qui vont permettre de faire apparaître des aspects du réel.
Il faut aussi savoir qu'avant ce texte, Sartre a écrit des carnets de la drôle de guerre.
Oui.
Lequel il livre des réflexions qui sont peut-être plus en lien avec l'actualité qu'il vit et qui de ce texte, va naître L'être et le néant, qui est un texte moins connu.
Oui, et dans ces carnets de la drôle de guerre, il dit qu'il a enfin mis au point sa vraie théorie du néant. On va dire les choses de la manière très simple. Le néant, ce n'est pas simplement la négation. Ce n'est pas simplement de dire « cette bouteille n'est pas sur la table » ou « n'est plus sur la table ». Parce que quand je dis « la bouteille n'est pas sur la table », c'est en fait un jugement que j'établis de l'extérieur entre la bouteille et la table. Le néant, c'est le fait qu'il y a un être, l'être humain, qui fait apparaître derrière la négation la possibilité du ne pas
Alors,
être des
on
choses.
Va prendre un cas particulier.
Et un ne pas réel, qui n'est pas simplement de l'ordre du jugement.
Voilà. Et, exemple, quand même. Qu'est-ce que c'est que ce ne pas réel? Sartre a bien conscience qu'il faut illustrer son propos. Dans l'être le néant, donc toujours, il prend l'exemple de ce qu'il appelle la coquette. La coquette est une femme de mauvaise foi. Qu'est-ce que la mauvaise foi, sinon la non-coïncidence de soi à soi? On pense être quelque chose alors qu'en réalité nous ne sommes pas ce que nous pensons être ou ce que nous devons être. Cette femme qui se rend à un rendez-vous galant est en pleine, ce qu'on pourrait appeler, crise de mauvaise foi. Voici comment Sartre décrit ce texte, un texte qui est très beau, très bien écrit en plus, et qui, me semble-t-il, illustre ce qu'il entend par la mauvaise foi et permet de prendre conscience en quoi le néant est de toute façon toujours d'emblée présent dans notre conscience à nous-mêmes.
Voici une femme qui s'est rendue à un premier rendez-vous. Elle sait fort bien les intentions que l'homme qui lui parle nourrit à son égard. Elle sait aussi qu'il lui faudra prendre tôt ou tard une décision. Mais elle n'en veut pas sentir l'urgence. Elle s'attache seulement à ce qu'offre de respectueux et de discret l'attitude de son partenaire. Elle ne saisit pas cette conduite comme une tentative pour réaliser ce qu'on nomme les premières approches, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas voir les possibilités de développement temporel que présente cette conduite. Elle borne ce comportement à ce qu'il est dans le présent. Elle ne veut pas lire dans les phrases qu'on lui adresse autre chose que leur sens explicite. Si on lui dit « je vous admire tant », elle désarme cette phrase de son arrière-fond sexuel. Elle attache au discours et à la conduite de son interlocuteur des significations immédiates qu'elle envisage comme des qualités objectives. L'homme qui lui parle lui semble sincère et respectueux, comme la table est ronde ou carrée, comme la tenture murale est bleue ou grise. Mais voici qu'on lui prend la main. Cet acte de son interlocuteur risque de changer la situation en appelant une décision immédiate. Abandonner cette main, c'est consentir de soi-même au flirt, c'est s'engager. La retirer, c'est rompre cette harmonie trouble et instable qui fait le charme de l'heure. Il s'agit de reculer le plus loin possible l'instant de la décision. On sait ce qui se produit alors. La jeune femme abandonne sa main, mais ne s'aperçoit pas qu'elle l'abandonne. Elle ne s'en aperçoit pas parce qu'il se trouve par hasard qu'elle est, à ce moment, tout esprit. Elle entraîne son interlocuteur jusqu'aux régions les plus élevées de la spéculation sentimentale. Elle parle de la vie, de sa vie, et se montre sous son aspect essentiel, une personne, une conscience. Et pendant ce temps, le divorce du corps et de l'âme est accompli. La main repose inerte entre les mains chaudes de son partenaire, ni consentante, ni résistante, une chose.
Entendre tout l'humour qu'il y a dans ce texte de Sartre, le deuxième chapitre de la première partie de L'être et le néant qui nous accompagne cette semaine. Adiris, vous êtes avec moi en studio pour expliquer la première partie de L'être et le néant et en particulier donc le concept même de néant. On a essayé et cette fois-ci avec l'exemple de la mauvaise foi. En quoi cette femme qui laisse nonchalamment sa main sur la cuisse de l'homme galant qui l'a séduit En faisant comme si cette main n'était pas là, est-elle vraiment de mauvaise foi? C'est un dédoublement à elle-même, en fait.
Tout à fait. Alors, nous sommes ici au cœur d'un passage, d'un morceau de bravoure, et qui est en même temps extraordinairement original de Sartre, qui vient en conclusion de la première partie. On va comprendre comment la réalité humaine sécrète le néant. Comment elle peut être elle-même son propre néant. Rappelons cette simple chose. Sartre a expliqué que être conscient, par exemple, d'un arbre, ou être conscient de moi-même, c'est finalement me faire néant de cet arbre, et en même temps rapport à cet arbre. Le néant permet le rapport. Le néant permet un désenglement, pourrait-on dire, qui ouvre la possibilité d'un rapport, où je ne suis rien d'autre que le rapport. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je suis conscient de quelque chose, comme le dit Sartre tout le temps et qui va expliquer là-dessus, je suis ce que je ne suis pas, c'est-à-dire l'arbre dont je suis conscient, et je ne suis pas ce que je suis, c'est-à-dire je ne suis pas cet arbre dont je suis conscient. Donc ça, et sur la réalité humaine, c'est particulièrement net, et je citerai un autre exemple qui me paraît intéressant. Souvenons-nous de Pascal quand il dit « C'est misère que de savoir qu'on est misérable ». Et j'insiste sur misérable. Mais c'est grandeur que de savoir, et j'insiste sur savoir, qu'on est misérable. C'est-à-dire que la connaissance, et plus profondément la conscience, permet le rapport, qui est un rapport d'assomption, mais ce rapport d'assomption est aussi un décalage par rapport à ce dont on est conscient. C'est comme ça qu'il y a conscience. Et que dirait-on de quelqu'un qui dirait « oui, je suis conscient d'être misérable, et à ce moment-là, bon, ça ne m'intéresse plus ». Autrement dit, il se réfugierait dans la transcendance pour ne pas assumer ce à quoi il est quand même lié par cette transcendance, c'est-à-dire ce qu'il est. Et il en est de même de notre coquette. Regardons de près ce qui se passe. Au moment fatidique, au moment où il lui faut prendre une décision,
c'est-à-dire, est-ce qu'elle va répondre ou non aux avances de l'homme qui l'a séduit?
Eh bien, que fait-elle? Eh bien, elle est totalement éthérée. C'est-à-dire, elle se fait pur
esprit. Elle s'absente à elle-même.
Elle s'absente à elle-même. Mais qu'est-ce que cela signifie, s'absenter à soi-même? C'est-à-dire, être que esprit au moment même où elle est en train de lâcher et de céder. Mais en même temps qu'elle cède, elle neutralise son abandon. Elle neutralise, elle essaie de s'en séparer. Mais c'est une fausse possibilité. Elle n'a pas vraiment la possibilité d'être entièrement esprit. Mais en même temps, c'est une possibilité qui a un certain sens. C'est-à-dire qu'elle joue du fait que, quoi que nous fassions, nous sommes rapport à ce que nous sommes. C'est-à-dire que, elle n'est pas esprit. Qu'est-ce que cela signifie, la mauvaise foi? La mauvaise foi signifie qu'elle se réfugie dans l'esprit, comme si on pouvait être purement esprit, au même titre que, par exemple, une table est une table.
Alors, pourquoi est-ce un problème? Parce qu'en ce cas, en faisant semblant d'être seulement esprit, elle fait semblant d'oublier que sa main est sur la cuisse de son voisin.
Autrement dit, elle n'existe pas comme une conscience, c'est-à-dire une conscience existe comme rapport à ce qu'elle n'est pas, mais rapport à ce qu'elle n'est pas qui fait partie de son être. C'est une manière d'être que cette bouteille qui n'est qu'une bouteille, mais c'est une autre manière d'être que celui d'une conscience qui est rapport à elle-même et en même temps séparation d'avec soi-même.
Alors on pourrait quand même répondre à Sartre que certes ce cas-là est un cas de mauvaise foi objectif, mais si cette distance à soi décrite avec l'exemple de la coquette est un exemple de mauvaise foi, alors ne sommes-nous pas en permanence de mauvaise foi? Il est très difficile de coïncider absolument avec tous ces faits et gestes.
Mais parce que effectivement, nous ne pouvons pas coïncider avec nos faits et gestes. La structure de la conscience, la conscience de soi, c'est une présence à soi par non-coïncidence avec soi. Je le dis bien, le rapport est en même temps liaison et séparation. Si j'étais rapport au sens où j'étais totalement la chose, je ne serais pas conscient. Mais en même temps, quand je suis conscient de la chose, je ne la suis pas, mais je me rapporte à elle. Et donc quand il s'agit de mon corps, D'une certaine façon, je ne suis pas mon corps, je suis conscient de mon corps. Mais je suis conscient de mon corps au sens où, voilà le mot, j'ai à être mon corps, j'ai à l'assumer, j'ai à exister mon corps. Or, ce que fait la coquette, c'est qu'elle utilise la structure de la conscience, être ce qu'on n'est pas et ne pas être ce que l'on est, pour se réfugier dans le vide d'une espèce de rapport nié. Tandis que la mauvaise foi, c'est la tentation qui est au cœur de toute conscience. Parce que la mauvaise foi est possible du fait que la conscience est un décalage d'avec soi. Et la coquette utilise ce décalage pour tricher, pour se rêver, pourrait-on dire, esprit, comme on serait une chose. Mais l'esprit est esprit au sens où il transcende le corps que je suis. Il lui donne sens et il l'assume.
Quand on pose à Sartre la question de savoir s'il serait lui victime, disons, s'il souffrirait de narcissisme, sa réponse est-elle de mauvaise foi? Je vous laisse juger. C'est Michel Contat qui lui pose la question en 1975 et voici sa réponse.
Je pense que ça serait bien que je n'ai pas de narcissisme et qu'effectivement je me comporte comme quelqu'un qui n'en a pas. Et ça ne veut pas dire que je n'en ai pas.
Mais qu'est-ce que c'est pour vous le narcissisme?
C'est une certaine manière de se contempler effectivement. C'est une certaine façon de s'aimer de telle manière qu'on trouvera bien telle réponse qu'on fait à l'événement. C'est une façon de vouloir se retrouver tel qu'on s'imagine être dans ce qu'on fait. Bref, c'est un rapport constant à soi. Soi n'étant pas d'ailleurs exactement le soi actif qui parle, qui pense, qui rêve, qui agit, mais étant plutôt un personnage fabriqué à partir de lui. Eh bien, ça, je ne peux pas dire que j'en sois complètement dépourvu. J'essaye de le supprimer. Il y a des moments où j'en suis dépourvu. Par exemple, en ce moment, nous parlons simplement de certaines choses. Elles me regardent, elles me concernent, donc je pourrais être narcissique. Mais en fait, je songe à répondre le mieux que je peux et j'en ai pas.
Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie et la voix de Jean-Paul Sartre, c'était en 1975. Il serait préférable que je n'aie pas de narcissisme, nous dit Sartre, bien conscient par là qu'il est très difficile de ne pas en avoir justement, parce que le narcissisme est aussi une des postures que nous sommes amenés à adopter pour être tout simplement à des risques.
Voilà, mais l'intérêt de Sartre, c'est d'avoir insisté sur la conscience, sur la subjectivité, mais d'avoir voulu vider la subjectivité, c'est-à-dire le rapport au monde et un certain rapport à soi dans le rapport au monde, de ce qu'il appelle une chosification, une transformation de l'ego, du moi, en chose. C'est-à-dire que tout le problème de la subjectivité humaine, c'est d'arriver à se vivre comme non-coïncidence avec soi, qui fait qu'on est toujours rapport à soi et dépassement de soi, vers ses possibles, vers son action, vers autrui, vers le monde. Or, la pente ou l'inertie de la conscience, c'est de vouloir se prendre pour objet. C'est de vouloir effectivement se prendre comme un moi, c'est-à-dire comme une chose dans laquelle on se contemple, dans laquelle on s'abîme.
Donc dire moi, postuler l'existence du soi, c'est déjà se choséifier.
Tout à fait, tout à fait. C'est ce que Sartre nomme la réflexion impure, d'une certaine façon. La réflexion impure qui consiste à réifier le moi comme on réifie, comme on se rapporte à n'importe quel objet du monde. Et il y a quelque chose dans le moi qui tient parfois aux relations tronquées avec autrui, où finalement je suis victime de cette réification du moi par l'autre, et finalement que j'intègre et que j'intériorise. Mais le moi est toujours à distance de moi. Comme le dit Sartre lui-même dans la transcendance de l'ego, le moi est une construction sociale, c'est une construction intersubjective. La conscience est subjective, mais elle n'est pas moi. Vous voyez ? La conscience est non-coïncidence. Par exemple, j'éprouve un plaisir. Eh bien, quand j'éprouve un plaisir, je suis présent à ce plaisir. Et donc, j'ai d'une certaine façon une présence à moi-même. Mais si j'essaie de me penser comme présence à, je ne saisis rien du tout d'autre que le plaisir. dont je suis conscient. Et si je suis conscient du plaisir, quand je suis conscient du plaisir, ben le plaisir n'est pas simplement un état qui m'investit, c'est rapport à cet état. La subjectivité est non-coïncidence qui permet le rapport. Et la mauvaise foi, c'est de devoir dépasser cette non-coïncidence pour tenter, d'une certaine manière, de coïncider avec soi. La coquette, elle veut se désolidariser de son corps qu'elle a à assumer, qui n'est pas elle, mais qu'elle a à être. Elle a à donner sens et à répondre aux sollicitations du partenaire. Et le garçon de café, exemple symétrique, lui, son problème, c'est pas qu'il ne veut pas être ce qu'il est, c'est qu'il veut être ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire son rôle, sa fonction, etc.
Bon, laissons la parole à Sartre à travers la voix de Vincent Schmitt pour nous décrire l'exemple qui est resté célèbre du garçon de café. Écoutez.
Considérons ce garçon de café. Il a le geste vif et appuyé, un peu trop précis, un peu trop rapide. Il vient vers les consommateurs d'un pas un peu trop vif, il s'incline avec un peu trop d'empressement. Sa voix, ses yeux expriment un intérêt un peu trop plein de sollicitude pour la commande du client. Enfin, le voilà qui revient en essayant d'imiter dans sa démarche la rigueur inflexible d'on ne sait quel automate, tout en portant son plateau avec une sorte de témérité de funambule, en le mettant dans un équilibre perpétuellement instable et perpétuellement rompu, qu'il rétablit perpétuellement d'un mouvement léger du bras et de la main. Toute sa conduite nous semble un jeu. Il s'applique à enchaîner ses mouvements comme s'ils étaient des mécanismes se commandant les uns les autres. Sa mimique et sa voix même semblent des mécanismes. Il se donne la prestesse et la rapidité impitoyable des choses. Il joue, il s'amuse. Mais à quoi joue-t-il? Il ne faut pas l'observer longtemps pour s'en rendre compte. Il joue à être garçon de café. L'enfant joue avec son corps pour l'explorer, pour en dresser l'inventaire. Le garçon de café joue avec sa condition pour la réaliser. C'est que, parallèlement, du dedans, le garçon de café ne peut être immédiatement garçon de café, au sens où cet encrier, où le verre est verre. Ce n'est point qu'il ne puisse former des jugements réflexifs ou des concepts sur sa condition. Il sait bien ce qu'elle signifie. L'obligation de se lever à 5 heures, de balayer le sol du débit avant l'ouverture des salles, de mettre le percolateur en train, etc. Il connaît les droits qu'elle comporte. Le droit au pourboire, les droits syndicaux, etc. Mais tous ces concepts, tous ces jugements renvoient à des possibilités abstraites de droits et de devoirs conférés à un sujet de droit. Et c'est précisément ce sujet que j'ai à être et que je ne suis point.
Celui-ci joue à être garçon de café, mais vous jouez à des risques à être professeur de philosophie.
Absolument.
Tous les jours au lycée Henri IV, à aujourd'hui de m'être mon invité, de même que je joue à être animatrice de radio. Nous passons notre vie à jouer.
Oui, alors, pour expliquer ce passage, comme vous me parlez plusieurs reprises du fait que je suis professeur, je dirais que le mieux, c'est de partir des contresens que l'on fait sur ce passage. Alors, que de fois ai-je entendu, aussi bien un faux bon sens s'ériger contre cette analyse de Sartre, ou parfois, faux bon sens, teinté de sociologisme. À savoir que ce texte est presque abject. Le garçon de café, c'est sa fonction sociale, c'est sa condition, c'est sa classe, c'est son ancrage professionnel. Il n'a pas le choix. Et en quelque sorte, Sartre aurait une position sur la liberté d'être garçon de café ou de ne l'être pas, qui serait en rupture avec la prise en compte de ce que l'on est véritablement, socialement, même, pour ainsi dire, de ce que l'on est déterminé à être, osons le grand mot, d'un point de vue social et d'un point de vue de condition. Or, Sartre, il ne faut surtout pas comprendre ce passage comme s'il disait que le garçon de café pouvait tous les matins se dire « Ah, mais je pourrais être aviateur, je pourrais être professeur, ou je pourrais rester dans mon lit et ne pas aller, et ne pas me lever au moment où le réveil sonne. » Mais ce que ça veut faire comprendre, c'est que notre condition est à supposer que notre condition, nous ne l'ayons pas choisie. C'est ça, la facticité. Nous sommes cela.
La facticité.
Voilà. Nous sommes ce que nous n'avons pas choisi. Effectivement. Et d'un certain point de vue, il y a une facticité de mon métier, jusqu'à un certain point.
C'est quoi la facticité? Hein? Qu'est-ce que c'est la facticité?
La facticité, c'est le fait d'être investi par l'être et le fait d'être pris dans une situation que l'on n'a pas choisie, que l'on n'a pas déterminée par soi-même. Mon corps, ma naissance, on est toujours conscient après coup de sa naissance. Mais la naissance est quelque chose qu'on traîne après soi. On est dans le sillage de sa naissance, mais on ne peut pas être sa naissance.
C'est un fait qui nous détermine et avec lequel nous ne devons pas coïncider absolument.
Vous êtes embarqué. Voilà. Vous êtes embarqué. Donc ça, c'est la facticité. Donc de certains points de vue, le garçon de café a une facticité. C'est un peu ce que Sartre veut dire. Nous ne sommes pas cette facticité au même titre qu'une bouteille, je reviens à ça, est une bouteille. Elle est ce qu'elle est. Cela que nous sommes, cela que nous n'avons pas choisi d'être, nous avons à l'être. C'est-à-dire que nous sommes séparés de ce que nous sommes précisément par le néant du rapport à soi. Ce néant du rapport à soi qui permet en même temps et le rapport. Qui dit rapport dit distinction et liaison. S'il n'y a que confusion, il n'y a ni rapport, il n'y a pas de distinction.
Mais d'où vient ce devoir-être? Vous dites cela que nous ne sommes pas, nous devons l'être.
Oui,
pourquoi le devons-nous?
Présent, non pas devoir au sens d'un devoir moral, en un sens qu'ancien, mais ça veut dire que nous avons à le faire exister. Nous avons à l'assumer. Ça veut dire que lorsque le réveil sonne à 5 heures du matin, quand bien même je n'ai pas le choix de ne pas me lever, parce que si je ne me lève pas,
je perds mon travail,
etc., il n'en demeure pas moins que c'est moi qui ai à être celui qui se réveille. Ce n'est pas un conditionnement social, ce n'est pas un mécanisme remonté au cœur de ma conscience qui me fait exister. C'est-à-dire que ce que nous sommes, nous avons à l'être. Et c'est ça la fameuse formule dont vous allez commenter sans doute demain, nous sommes condamnés à être libres. Ça veut dire qu'être condamné à être libre, ça ne veut pas dire pouvoir choisir, mais tout ce que nous sommes, nous le sommes sur le mode d'un avoir à l'être. Autrement dit, ce garçon de café, quel est son problème? C'est qu'il veut tellement coller à son rôle, il veut tellement être ce qu'il n'est pas, mais comme s'il pouvait se chosifier dans son rôle, qu'il triche, il veut tellement être sincère dans sa manière d'être garçon de café, qu'il est de mauvaise foi. Parce que précisément, l'homme, prononce cette très belle formule de Paul Valéry que cite Sartre, l'homme est une divine absence à lui-même. C'est-à-dire que je suis présent à moi-même parce que je suis toujours en capacité de me décrocher par rapport à moi-même. Et donc, lui, c'est pas qu'il a le choix de ne pas être garçon de café, mais on existe comme garçon de café. C'est-à-dire on a à l'être, et au moment où on réalise son rôle, on est sans cesse en train de le dépasser.
Alors,
nous sommes ce que nous ne sommes pas.
Que faudrait-il pour que ce garçon de café agisse de bonne foi? À quoi ressemblerait un garçon de café de bonne foi?
Eh bien, à quoi ressemblerait un garçon de café de bonne foi? Je serais presque tenté de dire, à la manière de Pascal, il fait ce qu'il a à faire, mais il a une pensée derrière.
Ça, on est habitué aux garçons de café qui pensent à autre chose.
Ah
dans
non,
nos
non,
cerveaux.
Pas une pensée derrière, au sens où, au moment où il s'ennuie à servir ses clients, il rêvasse ou il rêve d'autres choses, d'aventures, etc. Non, c'est il sait que cela n'est qu'un rôle et que effectivement, il ne peut pas se lover dans ce rôle comme dans une identité toute faite.
Et ça ne transparaît pas forcément pour celui qui le regarde alors. C'est une manière d'être à lui-même. Ou est-ce que du coup, il pourrait s'amuser de sa condition?
Il y aurait une forme de légèreté dans la manière d'être. C'est ce que Sartre nomme éviter l'esprit de sérieux. Et c'est pour cela que Sartre parfois a des problèmes avec les philosophes matérialistes. Parce que les philosophes matérialistes sont trop sérieux. Ils sont adhérents. Alors qu'il faut cette nuance de légèreté. Et Sartre dit, on se voudrait d'argile, il dit ça dans les carnets de la Drôle de Guerre, on se voudrait d'argile dans une identité comme le roc, alors qu'on n'est qu'un vent. Et donc il faut effectivement que la subjectivité soit un peu un vent, ce rapport distancié à soi-même, qui est l'essence même d'un rapport d'existence.
Et l'essence même de l'humour, voilà. Disait Bergson voilà. Au début du siècle
absolument.
Dans Le Rire.
Absolument. Et ce qui amène à poser une grosse question, une question capitale, c'est ne pas tout le temps fantasmer sur l'identité. Parce que l'identité, le fait d'être ce que l'on est, au sens où on est complètement enfoui dans ce que l'on est, ce n'est pas le mode d'être de la réalité humaine qui est à elle-même, parce qu'elle est à la fois distance à soi et rapport à soi.
Mais là, on retrouve...
Impossible coïncidence.
Voilà, on retrouve le problème du néant, parce que s'il faut renoncer à toute forme de coïncidence avec soi, s'il faut peut-être, en toute logique sartrienne, renoncer même au moi, à la notion de sujet, alors que reste-t-il de nous, si ce n'est peut-être cette expérience que l'on serait tenté de qualifier de néant ? Il est très difficile de trouver ce juste milieu entre celui qui dit « je » et le rien du tout. Qu'est-ce qu'il y a entre les deux ?
Sauf ce qu'il y a, c'est que la conscience, c'est ce par quoi il y a quelque chose. C'est par quoi il y a l'expérience.
Donc entre les deux, c'est la conscience.
Oui, la conscience, et c'est surtout l'expérience. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut bien comprendre que pour que l'expérience soit possible, il faut finalement un rapport. Et finalement, la subjectivité doit s'oublier comme moi pour être le rapport au monde. Vous voyez, vous m'interrogez ce fait. Pourquoi ne pas dire le néant, le vide ? C'est qu'effectivement, à la fois, Sartre assume l'idée de néant, mais il assume non moins fortement, il insiste tout le temps là-dessus, l'être précède le néant. Et autrement dit, le néant n'est pas, mais le néant se fait non-être pour permettre le surgissement de la réalité, pour permettre l'apparition du phénomène. Autrement dit, ce qui reste de cette non-coïncidence avec soi, c'est que le soi révèle le monde, révèle la réalité, le soi est expérience. L'expérience, ce n'est pas ramener à soi, c'est au contraire s'ouvrir, se consumer sur l'altérité que l'on fait apparaître.
Quelques années avant la publication de L'être et le néant, Sartre écrit La nausée,
oui.
Qui est une forme romanesque de ce même constat, et qui met en scène cette expérience dont vous parlez, de surgissement de néant, dans le monde qui nous entoure. On peut penser à la page fameuse de Roquentin, le personnage principal qui regarde le marronnier. La description de l'arbre devant lui est celle d'une forme de dégoût de l'existence elle-même, de l'être en tant que tel. Comme si cette distance qui permettait le surgissement de la conscience était, chez Sartre, aussi vécue comme une forme de dégoût, un sentiment très fort qui me détache aussi de ce monde-là. Ou alors, dès lors que je perçois une attache au monde, j'en suis dégoûté. Pour dire que c'est un poids aussi, chez Sartre.
Oui, absolument. L'être fait obstacle en même temps qu'il peut devenir un tremplin. Mais ce qu'il y a dans la nausée, c'est un premier moment. C'est, si vous voulez, la découverte de la contingence de l'être. C'est-à-dire la découverte de la contingence de l'être. C'est-à-dire que l'être est sans raison. L'être est sans raison. L'être précède toute raison. On ne peut pas se placer du point de vue d'une raison, d'une pensée, comme le ferait par exemple Leibniz, ou de la pensée de Dieu, pour déduire l'être. L'être est déjà là, sans raison, il le dit lui-même, absurde, privé de toute signification, et l'absurde, c'est-à-dire l'absolu. Mais, dans un second temps, ce qui va venir, c'est que apparaît la contingence de la conscience elle-même, et la conscience comme elle n'est pas fondement de son être, mais la conscience est fondement de sa néantisation, c'est-à-dire sa capacité de se poser comme n'étant pas, et par là même étant rapport au réel. Autrement dit, ce qui va apparaître, c'est qu'avec la conscience, qui est sans raison, apparaît la possibilité de questionner le réel, et donc finalement de dépasser cette absence de sens vers finalement le sens que la liberté humaine va faire advenir. Donc
c'est le thème très important de ce texte aussi. Hein. Voilà. On parle ici de l'être et du néant, voilà. De la mauvaise foi. Voilà. La liberté, c'est la dernière partie du texte, on en parlera demain. Voilà. C'est vraiment ce autour de quoi tout le livre gravite.
La nausée, c'est effectivement dans un premier temps la révélation que rien ne précède, ne conditionne l'être. Mais par là même, par la néantisation.
Et que c'est insupportable.
Voilà. Et que c'est insupportable.
C'est-à-dire que le surgissement de l'être est parfois une mauvaise nouvelle.
Absolument. Et donc effectivement, nous l'éprouvons factitiellement, à travers une espèce de sentiment, le sentiment de la nausée, de l'ennui, du dégoût, absolument. Mais dans un second temps, ou plutôt c'est presque corrélatif, et bien effectivement, ce vide de l'anéantisation qui va permettre de faire surgir du possible.
C'est ça, le néant, en l'occurrence, en revanche, est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que le néant permet une forme, alors peut-être pas de réconciliation, mais en tout cas d'accès à l'être sous un autre mode que celui du dégoût.
Tout à fait, tout à fait.
Ce qui renverse quand même les idées reçues que nous pouvons avoir autour de l'être.
Et absolument.
Je pense qu'on est toujours victime de ces œuvres, en ce sens, c'est ce que j'appelle intérêt idéologique. Les œuvres vous créent un intérêt, pas un intérêt d'argent, un intérêt d'idées, un intérêt de choses écrites. Après, quand vous parlez ou faites n'importe quoi, les gens vous disent « vous avez écrit ça, vous devez faire ceci ou cela ». Et je pense que j'ai derrière moi un lourd intérêt idéologique. On ne peut pas y échapper. Cependant, je ne suis pas tellement opprimé par ça, puisque justement j'ai un peu changé chaque fois. Je ne récuse aucune de mes œuvres, mais je n'entre jamais dans certaines, par exemple « L'être et le néant ». Je ne la récuse pas, loin de là, j'ai fait une place dans la critique de la raison dialectique, mais je ne la vois plus de la même façon qu'avant. De sorte que, comme chaque fois je me suis détaché de la chose pour la voir sur un plan un peu plus large, je ne pense pas être victime de ce que j'ai fait. En tout cas, je pense être moins que certains. Je pense que je ne me laisserai pas récupérer, du moins tant que je vivrai après. Peu importe, je ne pense pas qu'on me récupère aujourd'hui.
Je ne pense pas qu'on me récupère aujourd'hui, disait Sartre, toujours en 1975, au micro de Michel Contat. La question est intéressante, un, parce qu'elle permet de poser celle de la postérité de l'être et le néant à des risques, mais aussi parce qu'elle est complètement cohérente avec ce que nous venons de dire à propos de la pensée de Sartre, qui, pour qui la chosification, le fait d'être quelque chose réifié, fixé à jamais, est finalement le pire ennemi de la conscience et de l'existence.
Absolument. Je serais tenté de citer une remarque du même style que fait Sartre à propos du livre qu'il a fait publier en France d'André Gorze, qui s'appelle « Le traître ». Comment définir au fond, la vieillesse. Eh bien, la vieillesse, ce n'est pas un état, ce n'est pas un âge. La vieillesse, c'est lorsqu'on est désormais défini par ce qu'on a été, par son passé, et par le fait que le champ des possibles se restreint. Or, Sartre, c'est exactement cela. Ne pas être récupéré, c'est faire que finalement, l'œuvre faite existe, mais l'œuvre faite existe du point de vue de son auteur. C'est une à la fois quelque chose d'achevé et d'inachevé. C'est-à-dire quelque chose qui va être repris, dépassé, transformé, ouvert vers de nouveaux possibles, vers l'avenir. C'est en ce sens que d'ailleurs, il y a un rapport dans les œuvres de Sartre, des œuvres les unes aux autres. Chacune s'inscrit dans les limites de la précédente qu'elle rouvre à un niveau supérieur. Ainsi, de l'imaginaire à l'être et le néant, de l'être et le néant à la critique de la raison dialectique, de la critique de la raison dialectique à l'idée de la famille. Inachèvement et finalement dépassement, reprise. On est toujours en train de se faire en refaisant et en transformant ce qu'on a été. Autrement dit, tant qu'on n'est pas mort, d'une certaine façon, on n'est pas défini par ce qu'on a fait ou par ce qu'on a été.
Ce qui implique la capacité assez forte chez Sartre de se remettre en question, de penser contre soi-même.
Voilà, mais c'est ça la transcendance, c'est ça la transcendance, c'est ça la transcendance au sens sartrien, c'est d'être capable de se rapporter à soi dans une déprise de soi.
On le voit dans les mots, par exemple,
ne pas coller à soi. La névrose, c'est coller ou tenter de coller à soi, et d'être défini par quelque chose, par une image de soi à laquelle on adhère, ou par une image des autres que les autres ont de nous-mêmes à laquelle on va adhérer. Mais se déprendre de soi, c'est le moment même de la liberté. Ce qui fait qu'avec Sartre, comme avec Descartes, on peut dire que penser par soi-même, c'est penser contre soi-même. Parce que je ne suis pas moi au sens où je suis enfermé dans ce que j'ai. Sans cesse, je reprends et je dépasse ce que je suis.
D'où le besoin d'écrire. Sans Absolument. Doute, pour ne pas devenir fou, parce que cette dissolution du moi peut aussi rendre...
Dissolution rendre fou. Et reconstruction continuelle. Le moi est une aventure. Et ce qui intéresse, c'est finalement la trace du moi dans le monde. Rappelons toujours cette formule de Sartre. Il n'y a que le monde qui soit intéressant. Parce que le monde, c'est le lieu de l'effectivité et c'est le lieu de l'intersubjectivité. Mais simplement, la profondeur du monde lui vient de la subjectivité. lui vient de la subjectivité, il lui vient de l'homme qui le révèle. Et mieux encore, on révèle l'homme en l'offrant à autrui. On révèle le monde en l'offrant, en en faisant une proposition de sens à autrui.
À l'inverse de la coquette qui laisse sa main telle une chose inerte sur la cuisse de l'homme qui lui fait la cour, on va se quitter avec un chant de Jules Massenet. N'est-ce plus ma main que cette main presse ?
N'est-ce plus ma main que cette main presse, tout comme autrefois ? N'est-ce plus ma main, n'est-ce plus ma loi ?
Un grand merci à vous, Adiris, d'être venu nous parler de Sartre aujourd'hui.
Merci. On va inviter.
Je renvoie les auditeurs à votre ouvrage « Comprendre Sartre » aux éditions Armand Collin sur France Culture. Les chemins de la philosophie avec Jules Massenet. N'est-ce plus ma main que cette main presse ? Nous sommes en train d'écouter. Il est temps de retrouver le journal de la philo de Géraldine Mosna-Savoie.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
Comme tous les jours, vous nous parlez d'une forme d'actualité en lien avec la philosophie, et aujourd'hui cette actualité, c'est un anniversaire.
C'est un anniversaire, alors c'était l'anniversaire de David Bowie, il aurait eu aujourd'hui 70 ans. Vous venez de parler de la vieillesse, moi je vais vous parler de la mort, car c'est l'occasion de parler de ce livre de Daniel Salvatore Schiffer, avec en couverture le visage de David Bowie sous les traits de son double Ziggy Stardust, titre Traité de la mort sublime, sous-titre « L'art de mourir de Socrate à David Bowie ». Et quoi de plus pour donner envie d'ouvrir un livre qu'une telle question ? Et oui, qu'est-ce que mourir selon David Bowie ? Il y a presque 2 ans, le 10 janvier 2016, David Bowie disparaissait. Il disparaissait comme il l'avait expérimenté dans sa vie, grâce à l'alcool, aux drogues et quelques crises cardiaques, il faut le dire. Grâce aussi à tous ses doubles créés, puis tués au gré de ses multiples albums, Ziggy Stardust bien sûr, mais aussi à Aladdin Sane et plus évanescent, le Major Tom de Space Oddity, le Halloween Jack de Diamond Dogs ou encore le Pierrot Lunaire de Ashes to Ashes. À croire que David Bowie a élaboré un art de la disparition au fur et à mesure de ses propres apparitions, jusqu'à sa mort qu'il a signé de cet album dont on entend le premier titre, Black Star. À croire donc que David Bowie illustrait même un art de la mort façonné au cœur même de l'existence et de la vie. Premier paradoxe s'il en est et première leçon de vie ou de mort par David Bowie, faire de la mort le sens même de la vie. Alors certes, dire que la mort est la condition de l'homme est banal, d'une universalité consternante, et pourtant cela n'empêche pas que pour notre part on la cache, on la dissimule, on tente d'oublier la mort. Eh bien rien de cela avec Bowie, elle n'est pas seulement montrée, elle est cultivée. Something happened on the day he died. The spirit rose a meter and
stepped aside. Somebody else took his place and bravely cried, I'm a black star, I'm a black star. How many times does an angel fall? How many people lie instead of talking tall? He trod on sacred ground, he cried loud into the crowd.
Platon, Marc Aurèle, Épicure, Montaigne, Jean Kelevitch, Ricoeur, quel philosophe n'a pas parlé de la mort? C'est un thème classique, il résiste pourtant à quelque chose chez eux, même raconté, problématisé ou analysé sous une tournure subjective et autobiographique, la mort, avec ses philosophes, ne s'incarne pas. C'est tout le contraire chez Bowie, si la mort est cultivée, c'est qu'elle est incarnée, singularisée en un corps. Corps de plaisir et de douleur, d'Eros et Thanatos, corps jeune et vieillissant, corps à la fois évanescent et jouissant. Et c'est le deuxième paradoxe et la deuxième leçon de vie que laisse David Bowie. La mort, avec lui, est à la fois disparition et incarnation. Dandysme ultime, elle n'est pas uniquement et paradoxalement vécue, elle n'est pas non plus seulement cultivée, non, telle une œuvre d'art, elle est mise en scène et sublimée. Alors pas comme on embellit une chose laide, mais comme on révèle dans son sublime une chose, c'est-à-dire qu'on la montre dans sa laideur, dans le scandale de sa pureté, dans son esthétisme sombre et sobre. En témoigne donc cette étoile noire, qui lui de sa noirceur, mais en témoigne aussi ce troisième titre de ce dernier même album, Lazarus.
Look up here, man, I'm in danger. I've got nothing left to lose. I'm so high, it makes my brain whirl. Drop my cell phone down below.
Lazare ou la figure christique par excellence de la résurrection. Mais voilà, si mourir c'est le sens de la vie et même d'une belle vie, tout le monde n'est pas David Bowie, ni Lazare, ni David Bowie se prenant pour Lazare. Alors qu'est-ce que mourir quand on ne peut pas transformer celle-ci en musique, en œuvre d'art, en art de la disparition, en mise en scène, en chose sublime? Comment mourir, comment bien mourir, comment y faire face, comment ne plus avoir peur, comment regarder la mort dans les yeux? Et est-ce vraiment mourir que de laisser une trace immortelle et tenter ainsi la résurrection? Eh bien, c'est le troisième paradoxe et la dernière leçon insoluble laissée par David Bowie.
Merci Géraldine. Et donc, vous nous recommandez la lecture de cet ouvrage de Daniel Salvatore Schiffer.
Je commence
Schiffer,
Schiffer. Daniel Salvatore Schiffer, traité de la mort sublime, l'art de mourir de Socrate à David Bowie. Oui, je le recommande et c'est aux éditions Alma.
Merci Géraldine, votre chronique à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Merci à Claire Perryman-Holt qui a préparé cette émission, ainsi que David Pargamin, Marianne Chassor, Louis Servet, Géraldine Mosna-Savoie, Olivier Bétard et Thomas Beau qui réalisent cette semaine. Jean Frédérix à la prise de son, Vincent Schmitt à la lecture des textes. On se retrouve demain pour la suite de cette semaine sur L'être et le néant de Jean-Paul Sartre. Demain, nous parlerons de liberté à partir d'une question. Sommes-nous condamnés à être libres? Spoiler, la réponse de Sartre, c'est oui, bien sûr. Ce sera le philosophe Jean-Marc Mouy qui viendra vous expliquer en quel sens. D'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture. À la page des chemins de la philosophie, vous pourrez réécouter l'émission en ligne et puis la télécharger, la podcaster afin de l'écouter où vous voulez. Et quand vous voulez, rendez-vous également sur nos comptes Facebook et Twitter. Nous attendons vos remarques et commentaires sur France Culture à 11h. Restez à l'écoute, il est temps de retrouver Florian Delorme pour son émission Culture Monde.